Merci beaucoup, bonsoir. Je crois que beaucoup de choses, énormément même, a été dit et que nous allons d'une manière un petit peu pragmatique illustrer le potentiel de Radicaux pour répondre à un certain nombre de questions. Et je voudrais vous raconter juste un petit peu l'histoire de la cohorte des anomalies congénitales de l'œil qu'on a baptisé Accueil avec mon collègue et co-porteur Nicolas Chasse. Tout d'abord, que sont ces anomalies du développement de l'œil? Eh bien, ce sont des anomalies congénitales dont, paradoxalement, le diagnostic n'est pas difficile à faire et bien fait parce que c'est quelque chose qui est extrêmement visible dès la naissance de l'enfant. La description anatomo-clinique de ces grands remaniements malformatifs de l'œil a été achevée à la fin du XIXe siècle par les ophtalmologistes de manière très brillante avec une microsémiologie extrêmement précise. On peut faire trois grands groupes. Le premier, celui de l'absence ou de la malformation extrême de l'œil, qui est la microphtalmie, tout petit œil ou absence de l'œil, ça c'est facile. Deuxième, c'est une anomalie panoculaire qui est l'aniridie. Je devrais avoir. Désolé, la diapo arrive pas, la photo arrive pas, peu importe. Et puis des choses qui sont plus focalisées sur la partie complexe de l'œil, qui est l'avant de l'œil, qui sont les dysgénésies du segment antérieur, avec l'illustration, peu importe, les formes anatomiques, qui sont bien définies comme l'anomalie d'Axenfeld-Rieger ou l'anomalie de Peters. Tout paraît donc dans un monde bien cadré depuis fort longtemps, sauf que les progrès de la génétique moléculaire nous ont appris qu'il y avait un énorme recouvrement de responsabilité des différents gènes qui étaient responsables de ces anomalies. Et que ceux qui étaient à la fois responsables d'anophtalmie pouvaient être responsables d'anomalies plus mineures du segment antérieur. Et puis que des gènes responsables d'anomalies du segment antérieur pouvaient aussi occasionnellement être responsables d'anomalies. Et puis l'histoire se complexe. Suffit lorsqu'on regarde un tout petit peu le développement d'œil. Alors rassurez-vous, on ne va pas aller très loin. Mais le développement de l'œil, c'est comme le développement de tous les organes compliqués. L'œil, c'est du cerveau qui va aller parler avec la peau. Et quand l'œil va aller parler avec l'épiderme, il va y avoir un crosstalk, un échange de procédés, qui va se traduire en termes moléculaires par l'activation de réseaux de transcription de gènes qui sont extrêmement complexes, qui vont s'allumer, s'éteindre les uns les autres pour arriver à cet organe qui va être à la fois, in fine, de l'œil avec de la peau en avant qui va devenir transparente et du système nerveux à la fin. Alors bien entendu, quand on va toucher les gènes primordiaux de prolifération et de développement et qui ne vont pas fonctionner, il ne va pas y avoir d'œil. Quand on va toucher les gènes de développement terminal à la fin, il va y avoir des malformations plus mineures de l'œil. Et le gros défi était de comprendre pourquoi, en termes de physiopathologie, les uns et les autres pouvaient devenir interchangeables dans la sévérité. Ça, c'était le premier défi, et on a travaillé de manière fondamentale sur les réseaux transcriptionnels de l'œil et identifié un certain nombre de gènes responsables. Mais là, ce n'était pas la question. À ce moment-là, on s'est aperçu qu'il y avait, malgré tout, dans la définition anatomoclinique, pour précise qu'elle soit de la fin du XIXe siècle, de gros trous. C'est que si on savait décrire ces choses-là, on ne savait absolument pas quelle était la nature et la fréquence des anomalies associées. Alors, je viens de vous parler de système nerveux central. Il est évident qu'un défaut de développement du système nerveux central peut entraîner des défauts de développement de l'intelligence et des retards mentaux. Et quand on regarde les deux seules cohortes européennes qui ont été étudiées, une en Écosse et une en Espagne, sur l'incidence des malformations oculaires sur le développement cérébral et cognitif de l'enfant, on a des chiffres ridiculement faibles. Et donc, on ne sait pas. Et il traîne dans la littérature des données disant qu'il y a quelques pourcents, à 10 ou 12% de retards mentaux. Quel est le pronostic de ces enfants? Le diagnostic est fait à la naissance. Il voit l'ophtalmologiste qui fait un traitement palliatif à un certain nombre de problèmes rencontrés. Et puis ces enfants sont abandonnés avec leur malvoyance, voire leur non-voyance dans la nature. Et on ne sait pas quel est le pronostic visuel. Donc on est face à un défi, on est devant un défaut de développement de l'œil et du système nerveux. On ne sait pas estimer, évaluer quelle est la fréquence, la nature et l'issue du pronostic visuel et neurologique de ces enfants. Quels étaient nos obstacles pour essayer de constituer une cohorte? Eh bien, on avait la chance d'avoir le recrutement moléculaire de la quasi-totalité des enfants qui naissent en France avec ça, et puis d'un grand quart sud de l'Europe avec l'Espagne, l'Italie et puis l'Europe francophone. Mais malgré tout, c'est des affections qui sont très rares. La microphtalmie, c'est 1 sur 10 000. L'aniridie, c'est entre 1 sur 60 et 1 sur 100 000 enfants qui naissent avec ça. C'était extrêmement hétérogène. Et quand on regardait les mêmes mutations du même gène dans les familles, on avait des intensités variables et même des atteintes unilatérales dans une maladie génétique. Ça non plus, on ne comprenait pas très bien. Donc, regrouper les patients de manière homogène nécessitait que l'on fasse un énorme effort de regroupement de cohortes qui soient de taille suffisante pour en tirer des conclusions statistiques satisfaisantes. Et puis, ces atteintes, elles sont isolées ou syndromiques. Et effectivement, il y a d'autres malformations qui sont associées. Je ne passerai pas beaucoup de temps dessus. Donc, on avait un diagnostic précoce. Là, on n'était pas dans la rareté, on n'était pas dans l'errance diagnostique. Mais on n'avait ni issue thérapeutique, ni finalement connaissance épidémiologique sur ces maladies. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait dire à nos patients lors d'un diagnostic prénatal ou néonatal? On avait une prévisibilité extrêmement mauvaise, et ce qui est extrêmement délétère, et pour nous en tant que médecins, et pour eux en tant que patients. Et nous avons souhaité lever ces problèmes et créer cette cohorte d'anomalies congénitales de l'œil. Ce qu'on veut faire, c'est un suivi évolutif des enfants. C'est exactement les objectifs qu'on vous a évoqué. Pronostic visuel, pronostic neurologique, aboutir entre les centres de référence et de compétences à un bilan standardisé, identifier si possible des facteurs de pronostic, on peut essayer de le faire, et puis savoir du côté des associations et du côté des malades et de leurs parents et de la vie familiale, quelle était la répercussion sur leur qualité de vie, parce que là aussi en consultation, on a des sons de cloche extrêmement différents qui dépendent beaucoup des personnes. Et donc, on voulait aboutir, là aussi, avec cette connaissance, à l'amélioration de la prise en charge et de l'information aux patients. Comment est-ce qu'on a tenté d'organiser ça? Et là, Radicaux, qui devenait une espèce d'énorme CIC à l'échelon national, nous permettait de réaliser cette ambition. Ben, c'était d'avoir ce recrutement national. Et vous voyez, pour aller chercher ces anomalies en France, on faisait appel à 64 centres de référence et de compétences de deux filières distinctes, qui sont la filière des anomalies sensorielles, sans gêne, vous en verrez plusieurs exemples dans les posters, et puis la filière des anomalies du développement rare de tous nos réseaux de génétique. C'était relativement simple d'entraîner nos collègues dedans, puisque la collaboration était déjà effective au travers du diagnostic moléculaire et de l'expertise clinique locale toulousaine sur cette affaire-là. Il nous restait homogénéiser le bilan clinique et puis avoir un suivi suffisamment long pour juger du développement intellectuel et sensoriel de ces enfants. Et puis, bien entendu, on ne pouvait pas faire référence à ces maladies rares sans aller chercher les associations soit très spécialisées comme Généris et l'association Microphthalmie France, et une association plus généraliste dans le domaine qui était Retina et qui dispose d'un maillage territorial absolument exemplaire et aussi de capacités de soutien à la recherche, aussi bien clinique que fondamentale dans le domaine des maladies oculaires. Là aussi, on avait un tout petit peu anticipé ce qu'on vous a présenté tout à l'heure et on avait souhaité avoir une cohorte prospective, recruter les enfants parents avec des capacités de recrutement qui ont été un petit peu diminuées par rapport aux espoirs que vous avez apportés sur les 90% de participation. Bon, on espère bien les atteindre et si on les dépasse, ce sera bien. Avec un objectif final d'environ 500 patients inclus, c'est-à-dire une cinquantaine par an, alors qu'on a une file active de patients en diagnostic moléculaire qui est de plus de 150 patients par an actuellement, et puis une cohorte rétrospective, parce qu'on a des adultes, et là on ne s'intéresserait plus aux enfants en âge scolaire suivis 5 ans et 10 ans après l'inclusion, mais à des patients qui nous montreraient un peu le endpoint de ce que sont devenus ceux qui ont été des enfants, même si les possibilités de prise en charge thérapeutique ne sont pas exactement les mêmes, et ça nous intéressait beaucoup. La place des acteurs, bon, très classiquement, les investigateurs étaient à leur place d'investigateurs. Les comités de pilotage et scientifiques avaient une certaine originalité dans le sens où ils intégraient effectivement les associations de la pluridisciplinarité avec des ophtalmos, des généticiens, des pédiatres, des orthoptistes et les associations de patients. Ça permettait un suivi d'évolution plus proche et des actions correctives, et on espère au fur et à mesure de la cohorte, si on s'est un petit peu trompé. Et puis les associations de patients en elles-mêmes sur la communication, le recrutement des patients et puis le rappel des suivis à leurs adhérents, ce qui nous paraît être essentiel pour avoir un suivi aussi long qu'une dizaine d'années. La plateforme Radicaux nous apportait tout le soutien logistique, à la fois complètement technique et administratif sur l'aide à monter les dossiers, les contacts avec les promoteurs, le passage devant les commissions ad hoc, je ne reviendrai pas dessus, et puis un support méthodologique adapté avec la connexion des différents centres, l'interchangeabilité des données qu'on pouvait avoir à partir de nos registres hospitaliers qui sont tous un petit peu différents. La création d'un ICRF à minima en travaillant là aussi sur un minimal dataset qui soit acceptable pour la charge de travail du généticien et de l'ophtalmologiste moyen des CHU de province. Et puis, associer un certain nombre de facilités, aussi bien pour les investigateurs que pour les médecins, que pour les patients et les familles, avec des newsletters, etc. Et puis après le recrutement, bien entendu, on en a parlé aussi tout à l'heure, il y avait le support méthodologique au traitement, parce qu'on va rentrer dans des données un petit peu complexes qui vont être de la morphométrie d'image, du stockage de ces images, de l'interprétation statistique de données quantitatives que l'on va obtenir sur l'exploration de l'œil. Et puis on compte aussi sur Radico pour une extension européenne du projet qui est assez bien partie pour IRAR et H2020 avec les associations, là aussi, de patients et de collègues européens. Bien entendu, ça ne saurait se concevoir sans la poursuite de projets connexes. À côté de ce projet d'épidémiologie génétique, on a déjà développé au laboratoire diagnostique, comme ça a été évoqué tout à l'heure, un passage à un panel de 24 gènes plutôt que des 7 gènes habituellement screenés dans les laboratoires de référence sur la planète pour ça. Et pourquoi 24 gènes? Parce qu'on a à peu près 350 gènes identifiés pouvant intervenir dans le développement de l'œil. Pas simplement pour des raisons éthiques, c'est que l'implication étant tellement incertaine pour beaucoup d'entre eux que pour l'instant et pour un réseau diagnostique, on a souhaité se baser sur ceux qui avaient une pénétrance forte et dont la présence était probablement le témoin très prévisible, sinon à 100%, avec une très forte probabilité, du développement d'un défaut majeur sur l'enfant à naître. Il y a déjà plein d'identifications de gènes qui ont été faites en collaboration avec tous les gens que j'ai marqués là. Jean-Michel Rosé au laboratoire de génétique ophtalmologique d'Imagine, Nicolas Raggi à Oxford, Steve Wilson à Londres, Erika Davis à Duke, Mimi Jab à New York. Et donc plein de choses fondamentales qui continuent à se faire et qui se perfectionneront grâce à ce recrutement incrémenté. Et puis on est en train de passer, non plus du panel de gènes, mais de l'exome. Et puis, comme on a déjà des échecs d'exome, à des demandes de travail sur génome complet au travers des appels d'offres. Et puis, quelque chose qui nous est apparu imparfait aussi, c'est que les échelles d'évaluation du statut mental d'un enfant aveugle est quelque chose qui est fort mal fait et qu'on a déjà là aussi entamé une collaboration avec les psychologues du CNRS et de l'Université de Toulouse 1 pour essayer d'adapter aux atteintes sensorielles des échelles qui soient plus adaptées. Donc c'est un projet assez ambitieux parce qu'on veut récolter beaucoup de gens issus de maladies extrêmement, extrêmement rares et on avait vraiment besoin de ce support national. On pense que c'est un projet qui est essentiel pour comprendre l'histoire naturelle des anomalies congénitales de l'œil, essayer de les trier parce que vous avez vu que leur description anatomoclinique ne suffit pas à les expliquer et à expliquer leur pronostic. Et puis aussi pouvoir proposer à terme de ces 10 ans un nouveau PNDS, ou en tout cas réviser celui qui est en cours d'élaboration, parce qu'il y a beaucoup de credos dans le PNDS qui est en cours d'élaboration et assez peu de preuves scientifiques sur l'efficacité de telle ou telle chirurgie sur le segment antérieur de l'œil, dont certaines sont d'ailleurs apparemment plutôt délétères. Et puis le reste, la possibilité de s'appuyer sur cette cohorte pour développer d'autres projets, qu'ils soient moléculaires ou en sciences humaines et sociales. Voilà. Donc je voulais vous remercier de m'avoir invité à présenter cette cohorte et attester du fait de l'efficacité de l'équipe Radico et puis remercier les porteurs de ce projet de cohorte d'avoir aussi bien défendu les choses et nous amener cette possibilité.